Merci Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal des contribuables, dirigé par Benoît Taffin, assisté de Coralie. Émission préenregistrée les 12 et 18 juillet 2011, diffusée pour la première fois le mardi 2 août 2011 de 18h à 21h, puis le mercredi 3 août dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Cette émission est réalisée par Benoît et Jean-Édouard. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission car elle a été préenregistrée, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Chers amis auditeurs, bonjour. J'espère que vous pouvez profiter de ce mois d'août et que vos éventuels déplacements ne vous privent pas de votre chère radio. Les vacances m'ont obligé à enregistrer cette émission, non seulement parce que je serai moi-même loin de Paris, encore que le Pas-de-Calais, c'est pas à l'autre bout du monde, mais surtout, j'aurais eu bien du mal à rassembler mes invités. Vous ne pourrez donc pas poser vos questions, ce que je regrette, car cela met beaucoup de vie dans le libre journal. Comme de coutume, ce libre journal comportera deux parties avec des sujets de débat différents. Pour la seconde partie, dans une heure et demie, je recevrai Nicolas Lecaussin de l'IREF, l'Institut de Recherche Économique et Fiscale, pour un dossier explosif qu'il vient de réaliser avec Jacques Garello pour l'UNPI, l'Union de la Propriété Immobilière, son titre « La vérité sur le logement social ». Je recevrai aussi Alain Bisbault, spécialiste du fonctionnement de nos assemblées parlementaires, pour parler de l'argus des députés. Note que Contribuables Associés attribue chaque année à nos élus en fonction de leur dévouement à la cause du contribuable. Pour cette première partie, j'ai le plaisir de recevoir Cécile Philippe, directrice de l'Institut Molinari, dont elle nous parlera plus longuement dans un instant. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Je l'ai surtout conviée pour discuter du jour de libération du contribuable. Nous le célébrons à Contribuables Associés depuis 12 ans. C'est le jour symbolique où les Français arrêtent de travailler pour entretenir la collectivité et profitent enfin du fruit de leur travail. Ce qui est intéressant, c'est que l'Institut Molinari le calcule très différemment de nous, mais que néanmoins, nous tombons sur un triste résultat, aussi bien Contribuables Associés que l'Institut Molinari.
Absolument.
Nous travaillons pratiquement jusqu'à la fin juillet pour couvrir la dépense publique. Vous allez bientôt tout savoir de cette libération grâce à Cécile Philippe, mais aussi à Laurent Arthur Duplessis, qui est responsable des publications à Contribuables Associés et se penche depuis quelques années sur ce jour fatidique.
Bonjour,
bonjour Laurent.
Bonjour Benoît.
Nous a rejoint Jean-Baptiste Josseau, qui est responsable de Liberté Chérie, qui était avec nous d'ailleurs lors d'une précédente émission il n'y a pas très longtemps, et qui s'intéresse lui aussi au jour de libération de contribuables. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour.
Enfin, une charmante nouvelle collaboratrice me seconde pour ce journal, Coralie, qui est en charge à Contribuables Associés des relations extérieures et qui a bien voulu venir m'aider aujourd'hui. Bonjour Coralie.
Bonjour Benoît.
C'est elle qui a préparé une petite biographie de nos invités afin que vous sachiez, chers auditeurs, à qui vous avez affaire. Sauf Laurent, qui est un habitué non seulement du Libre Journal des Contribuables, mais également de l'antenne de Radio Courtoisie où il vient parler de divers sujets. Alors, une biographie de Cécile et de Jean-Baptiste Coralie, s'il vous plaît.
Oui, tout à fait. Donc, je vais commencer par Cécile Philippe. Donc, vous êtes docteur en économie. Vous avez étudié à l'Université Paris-Dauphine et vous êtes la fondatrice donc, de l'Institut économique Molinari, dont vous êtes la directrice. Donc, vous y traitez de questions nationales, européennes et internationales. Mm-hmm. Vous passez régulièrement dans les médias sur les questions environnementales ou de politique générale. Et à propos des questions environnementales, vous avez écrit un ouvrage en 2007 intitulé « C'est trop tard pour la Terre », dont vous avez appelé un débat scientifique et non idéologique sur les questions environnementales.
C'est ça.
Voilà.
Absolument. J'étais venue d'ailleurs à Radio Courtoisie pour en parler
de ce livre. Tout à fait, je me souviens, c'était l'occasion à laquelle vous étiez venue.
Voilà. Ensuite, Jean-Baptiste Josseau, donc vous êtes consultant en communication. Vous avez fait un master en économie à l'Université Aix-Marseille 3. Vous êtes également ancien élève de l'ENA. Vous avez étudié la gestion des risques sur les territoires. Et vous êtes un des principaux animateurs de Liberté Chérie, puisque vous êtes le porte-parole et le secrétaire général.
Tout à fait.
Merci Coralie, rien à ajouter ?
Non, c'est parfait.
Alors, eh ben, je vais me tourner d'abord vers Cécile, mais tout de suite après vers Laurent. Mais avant qu'on se lance dans le jour de libération du contribuable, j'aurais bien aimé que vous nous parliez un peu plus de l'Institut Molinari, parce que je sais que nos auditeurs connaissent Contribuables Associés à cause de ce journal. Mais nous avons peut-être beaucoup de réseaux, nous avons tout un réseau de partenaires avec qui nous travaillons, et notamment des gens qui approfondissent souvent des questions que nous abordons de façon différente, un peu plus vulgarisatrice, dirons-nous. Et donc, je serais très contente que vous nous disiez un peu plus ce qu'est cet institut, pourquoi le Molinari, pourquoi et quand a-t-il été fondé, et quels sont actuellement vos thèmes de travaux principaux.
Absolument. Et bien, en fait, donc, l'Institut économique Molinari est un institut de recherche que j'ai créé en 2003. Donc, ça fait déjà quelques années maintenant qu'on travaille à l'analyse des politiques publiques. Donc, en fait, on s'insère dans une tradition anglo-saxonne qui consiste à s'intéresser à différentes politiques, qu'elles soient environnementales, fiscales, de santé, qu'est-ce qu'on a fait d'autre, les télécommunications, toutes sortes de sujets. Dès lors qu'on arrive à les comprendre, eh bien, on essaye d'analyser quelles sont les conséquences de l'interventionnisme étatique dans le domaine étudié. Et en général, malheureusement, on arrive souvent à montrer que les conséquences sont souvent négatives, perverses, problématiques, et qu'on ferait mieux d'intervenir un peu moins dans nos économies pour qu'elles s'organisent mieux et qu'on ait plus de création de richesses. Voilà, donc ça, c'est notre mission. On le fait activement, et en particulier sur des thèmes environnementaux. Évidemment, avec la crise, on s'y est intéressé plus particulièrement. Donc maintenant, on s'est spécialisé dans les questions monétaires et financières. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre, probablement, qu'on peut insérer nos travaux sur le fardeau fiscal du travailleur lambda au sein de l'Union européenne. C'est comme ça qu'on a nommé nos travaux sur ce que vous appelez, vous, le jour de libération du contribuable. Donc plus que le jour de libération fiscale, hein, si je comprends bien. On focalise bien sur le contribuable. Nous, en fait, on l'a focalisé sur le travailleur lambda, le travailleur moyen. Je vais vous expliquer un peu comment on l'a fait. Donc ça, c'est aussi un de nos domaines de recherche. Et puis, on veut vraiment continuer donc sur les domaines de l'environnement, mais en abordant des nouveaux thèmes comme celui de tout cet activisme autour des processus de certification. Donc là, on rentre un peu plus dans la technique, mais ça va être tellement important de pouvoir poursuivre ces sujets à un moment où les finances publiques se portent tellement mal et où il va falloir, je pense, libérer nos économies si on veut pouvoir renouer avec la croissance.
Eh bien, écoutez, c'est bien sur ce thème principal et sur cet objectif principal qu'on se retrouve, si on a un peu des méthodes un peu différentes, un public différent, d'où des méthodes différentes. D'ailleurs, on ne s'adresse pas tout à fait, vous adressez à un public plus averti, je pense, que nous en matière économique. Mais c'est pourquoi Molinari ?
Molinari, parce qu'en fait, il incarne parfaitement ce que nous essayons de faire. Molinari, c'est un économiste, donc fin 19e, début 20e, qui a dirigé le journal des économistes et qui...
Italien ou français, avec ce joli nom,
franco-belge.
D'accord.
Or, j'ai créé mon institut d'abord en Belgique et puis en France. Donc, en fait, il a vécu longtemps en France. Le journal des économistes est un journal français et il s'insère dans la tradition donc des libéraux français tels Frédéric Bastiat, Dunoyer, etc. Une tradition très, très, très importante en France qu'on oublie trop souvent. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a pris le nom de Molinari.
D'accord, qui est souvent d'ailleurs mieux connue, toute cette tradition, aux États-Unis.
Absolument.
Où les Français sont, c'est le nom de Bastiat qui me fait penser, où les Français, la tradition libérale française est beaucoup plus connue qu'en France même.
Exactement. Et ils avaient cette, c'est vrai que c'est important de le préciser, ils avaient cette caractéristique d'être donc de très bons intellectuels, mais d'être capables de donner leur message de façon très claire à des gens pas forcément experts. Et c'est vrai que c'est ce qu'on essaye de faire. C'est vrai qu'on s'adresse à un public peut-être un peu plus expert, ou en tout cas en économie, que Contribuables Associés, mais on essaye toujours de le rendre accessible sans perdre trop sur le fond, puisque il ne faut pas.
Écoutez, vous le rendez parfaitement accessible, puisque moi je reçois, d'ailleurs vous nous direz comment on peut faire, parce qu'on a peut-être sûrement des auditeurs internautes, comment on peut connaître vos travaux, parce que je reçois notamment, je crois que c'est toutes les semaines, chiffre.
C'est ça, on a un chiffre.
Alors ça, j'aime beaucoup, on s'en sert souvent d'ailleurs, vous avez dû voir, on le reprend souvent sur notre
absolument.
Site.
Oui.
Vous sortez un chiffre qui est étonnant.
Oui, qui nous semble assez symbolique, assez caractéristique de ce qui se passe dans la société. Cette semaine, par exemple, en avant-première, je vous annonce qu'on va parler du montant de dettes espagnoles, italiennes, grecques détenues par la Banque Centrale Européenne, qui montre à quel point on est dans un processus de création monétaire qui risque délirant et voilà et qui risque donc de créer une pression sur les prix à la hausse, ce dont nous disons à l'Institut que c'est une très très mauvaise chose.
Eh ben, on fera attention à ce chiffre puisque, d'ailleurs, c'est Coralie qui s'en chargera. On reprend très, très souvent ce que vous annoncez dans notre site. C'est excellent et effectivement très, très facile à comprendre. Je pense qu'on aura plaisir aussi à refaire avec vous une émission sur l'écologie et sur tout ça. C'est là-dessus, sur votre livre, qu'on s'était vu parce que ça prend des proportions absolument incroyables et épouvantables à un moment où il ne faudrait pas de par l'État.
Sachant que vous avez peut-être vu qu'il neige dans les Alpes. Donc ça conforte ce qu'un certain nombre de scientifiques disent, à savoir que depuis une quinzaine d'années, il n'y a pas eu de réchauffement climatique. Donc, et c'est ce que j'ai essayé de diffuser au cours des dernières années, c'est de dire qu'il n'y avait pas de consensus sur les tests concernant le changement climatique et qu'avant d'aller tout interdire, réglementer, etc., il fallait peut-être raison garder et éviter certains écueils comme le principe de précaution et autres.
Comme le déversement de subventions
sur des éoliennes
ou des panneaux solaires.
Oui, exactement.
Très sympathique. Tout ça est toujours très sympathique.
J'aime dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions.
Absolument. Bon, alors, il ne faut pas qu'on soit trop sûr. Ça sera le sujet d'une autre émission. Mais avant que vous nous expliquiez, vous, comment vous calculez à l'Institut Molinari ce fameux jour de libération fiscale, je vais demander, me tourner vers Laurent, puisque c'est lui qui est chargé depuis quelques années de calculer ce fameux jour et de sortir un petit dépliant, un petit, on appelle ça notre triptyque, qui en 5 pages vous dit tout sur la libération fiscale et que vous pourrez d'ailleurs vous procurer et nous demander. Je vous donnerai les coordonnées tout à l'heure, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent. Donc, ce petit dépliant, c'est vous qui l'avez réalisé. Donc, je voulais vous demander d'abord, que recouvre exactement pour contribuable associé ce terme de jour de libération du contribuable? Et puis, comment est-ce que vous le calculez? Et il y a diverses façons de le faire. Donc, vous nous donnerez votre calcul et Cécile nous donnera le sien. Et puis, quelque chose dont on n'a pas encore parlé. Quand est-ce qu'on va être libéré cette année?
Alors, cette année, nous avons été libérés le 22 juillet dernier. C'est-à-dire que jusqu'au 21 juillet dernier, nous avons travaillé pour payer nos impôts. Et le lendemain, le 22 juillet, enfin, nous respirions l'air de la liberté, c'est-à-dire que nous nous mettions à travailler pour nous-mêmes et nos familles et pas pour la sphère publique. Et nous calculons ce jour de libération fiscale à partir des statistiques de l'OCDE, notamment le fameux tableau 25 des statistiques de prévision économique de l'OCDE, qui donne le pourcentage des dépenses des administrations publiques en rapport avec le produit national brut. Et nous tablons sur les statistiques de l'OCDE de manière à écarter les pièges de l'INSEE, parce que l'INSEE donne souvent des chiffres qui sont extrêmement contestables, et puis en plus brise ses séries statistiques en changeant de critères régulièrement, de manière à ce qu'on soit complètement dépisté, etc. Vous connaissez bien le problème. Mmh. Et nous avons remarqué, donc, entre 1999 et 2009, le jour de libération fiscale avait oscillé entre le 10 juillet et le 17 juillet. Là, nous en sommes au 22 juillet. Nous avons devant nous des perspectives tout à fait inquiétantes.
Alors, attendez, avant qu'on parle des perspectives, je vous arrête juste 2 secondes. Donc, je résume. Si je comprends bien, c'est un jour symbolique, d'abord. Mmh. Ensuite, c'est une moyenne, puisque selon ce que vous payez comme impôt ou comme charge, tout le monde n'est pas libéré le même jour.
Eh oui.
Mais on a fait une moyenne en prenant tout ce qui était dépensé. Alors, vous me dites, si je ne me trompe pas, donc il y a bien l'État, les collectivités locales,
la sécurité
et tout
sociale.
Ce qui est assurance sociale, voilà. Tout ce qui nous est pris au titre de la sécurité sociale.
Ce qu'on peut regrouper sous le terme de sphère publique, dépenses publiques.
Tout ce qui est sphère publique. Donc, on prend ce chiffre de dépenses, et puis le produit intérieur brut ou national brut, c'est donc toute la richesse créée.
C'est en gros la richesse du pays. Voilà.
Et donc, on est à quel pourcentage donc, cette année de dépenses publiques par rapport à la richesse créée?
Donc 55,3% du PIB.
est absorbée par la sphère publique.
Par la sphère publique.
On a transformé ça en jours.
Donc nous avons 202 jours de travail pour chaque Français, donc en moyenne toujours. Et le 203e jour, nous sommes libres.
De quoi nous donner le cafard, sauf qu'effectivement, comme on est le 2 août, bah ça y est, on est déjà libéré, donc ça va mieux. Mais ouf. Mais sinon, c'est effectivement pas un chiffre très réjouissant. Alors pourquoi est-ce que Contribuable Associé a lancé cette idée d'un jour de libération? C'est quand même assez amusant, ça n'existait pas avant.
Eh bien, c'est une excellente idée, puisqu'en effet, elle permet de montrer aux contribuables le poids de la pression fiscale sur sa vie. C'est-à-dire que c'est un poids très concret et je dirais très mesurable, très quantifiable. Le contribuable, jusqu'au 21 juillet inclus, a travaillé non pas pour lui-même, mais pour la puissance publique, ce qui est une aliénation, puisque en effet, on pourrait estimer qu'il soit raisonnable de travailler en gros 3 ou 4 mois maximum pour la puissance publique, mais pas au-delà. Au-delà, ça devient confiscatoire, ça devient aliénant. Et
plus de la moitié du temps, c'est fou. Oui.
Et au-delà, ça étouffe complètement la vie économique, ça étouffe la création d'entreprises, ça étouffe la consommation, ça étouffe tous les ressorts du dynamisme économique. Et c'est ce qui explique d'ailleurs en partie l'anémie chronique de notre économie.
Le triste état de notre économie française. Alors, je vais me retourner maintenant vers Cécile. Donc, je crois que c'était bien clair la façon dont nous on l'a fait parce que on n'a rien inventé, hein, je crois, à Contribuable Associé. On a fait ce que font un certain nombre d'instituts et d'organisations anglo-saxonnes. Ouais. Alors, vous avez adopté quelque chose de très intéressant.
Mais on a trouvé l'idée tellement bonne que, vous voyez, on l'a reprise.
Et alors, ce qui est très intéressant, vous allez expliquer ça à nos auditeurs, c'est que vous faites complètement différemment, mais vous
Absolument.
Tombez néanmoins presque, enfin je crois qu'à quelques jours près, on tombe sur la même date, 26, ça je crois.
Exactement, pour nous le travailleur de français a été libéré le 26 juillet dernier, donc à 4 jours près, hein, on est vraiment, et c'est très intéressant de tomber sur un chiffre aussi proche que celui de Contribuable Associé, puisqu'effectivement nous avons eu une démarche différente. Alors c'est vrai que l'Institut Molinari a une tradition européenne, puisqu'on fait aussi l'analyse des politiques publiques européennes, et il nous a semblé extrêmement intéressant de s'intéresser au jour de libération du travailleur dans tous les pays de l'Union européenne, et ainsi de pouvoir faire des comparaisons au sein de l'Union. Et c'est pour ça que on l'a fait pour les 27 pays, et avec une
donc quel boulot.
Mais on a été aidé, j'allais le dire, c'est qu'en fait on a réussi à intéresser Ernst & Young à ce projet, et c'est donc aussi grâce à eux qu'on a
pu une grosse boîte d'audit.
Audit,
est-ce qu'il y a un mot français? Non, allez, on va l'adopter.
Ils font du conseil. Alors conseil, sinon on pourrait dire qu'ils conseil. Font du conseil aux entreprises et donc ils manient les chiffres de façon très aisée. Et en fait, on n'a pas adopté une vision macroéconomique comme Contribuable Associé qui part de données de l'OCDE qui sont compilées déjà. Nous, on est parti donc de données microéconomiques, à savoir des charges sociales qui sont directement payées par chaque travailleur. Donc des charges sociales évidemment moyennes. Hein, il s'agit de.
Mais pour Bien un sûr, travailleur. Comme nous, hein, c'est
voilà,
forcément moyen.
C'est ça. Mais pour un travailleur, quand je lui dis travailleur lambda, c'est vraiment le travailleur moyen, c'est-à-dire de celui qui se situe dans la moyenne des travailleurs français. Et on a cherché à calculer toutes les charges qui pèsent sur ce travailleur pour ensuite le transformer en jours.
Les charges sociales, donc aussi
donc
bien...
Donc les charges sociales, donc patronales et salariales.
Puisque de toute façon, même les patronales, c'est lui quelque part, on les enlève de ce qu'il aurait gagné s'il n'y en avait pas.
Exactement, et ça c'est un aspect sur lequel on a beaucoup insisté, parce que justement ça contribue à un manque de transparence en France comme dans les autres pays, puisque pratiquement tous les pays de l'Union européenne ventile entre des cotisations dites salariales et des cotisations dites patronales. Mais
c'est pas une spécificité française.
Non, ce n'est pas une spécificité française. Et c'est très courant. Et sauf que la spécificité en France, c'est que les cotisations patronales sont supérieures à 50% du brut, du salaire brut. Ça, c'est vraiment une exception. Et elles sont beaucoup plus élevées que les cotisations salariales, sachant qu'in fine, c'est toujours le salarié qui paye, et ça, il faut bien le comprendre, en économie, c'est extrêmement important. Les salariés, en fait, auraient pu, ou dit autrement, le patron est obligé de débourser pour un employé un certain montant qu'il aurait pu mettre directement dans la poche de l'employé, mais que finalement, il n'a pas la possibilité de faire. Il est obligé de verser des cotisations à divers organismes pour diverses prestations. Donc, il y a toutes ces charges qui sont comptabilisées, auxquelles on ajoute la TVA, qui a été donc
donc on calcule
montant,
on calcule la consommation moyenne
voilà,
du citoyen
en enlevant un montant qui est considéré comme du logement le que voilà il y a l'impôt sur le revenu bien sûr et on a par contre pas tenu compte de certaines taxes très spécifiques comme en France les RPP ou les taxes sur le tabac parce que elles sont trop différentes en fonction des enfin selon
d'un pays
les
à l'autre là on
exactement.
Peut plus suivre
ouais. Voilà et donc nous on arrive effectivement à un jour de libération fiscale le 26 juillet ce qui montre que effectivement en France le travailleur français eh bien est obligé de travailler plus de la moitié de l'année pour s'acquitter de ses impôts et de ses charges et que au sein de l'Union européenne eh bien le travailleur français est vraiment en
est-ce qu'on est en première ligne est-ce qu'on est champion du monde
non,
avec votre calcul
non on n'est pas champion du monde c'est la Belgique qui est donc champion du monde suivi de la Hongrie puis de la France donc en fait la France est quand même numéro 24 sur 27 donc c'est quand même une position peu enviable et on a quand même un record c'est celui des charges social, c'est le number, pardon, j'allais, c'est le numéro 1 de l'Union européenne. Donc on a vraiment les charges les plus élevées, les plus lourdes.
Donc Hongrie et Belgique est pire que nous en termes de charges. Par contre, Laurent, nous, dans notre tableau de comparaison internationale, on n'est pas champion du monde cette année. Je crois qu'il y a deux ans, on l'était.
Alors,
hein.
Nous, on est arrivé au résultat que nous sommes vice-champions du monde.
Et on est champion de ce qu'on peut. Hein.
Nous avons devant nous le Danemark, où les contribuables travaillent 213 jours, selon nos calculs, pour la sphère publique. Et donc sont libérés de deux jours.
C'est ça qui est très intéressant dans nos deux calculs. C'est qu'on tombe pas sur les mêmes pays, mais je pense que c'est clair pour nos auditeurs. En tout cas, ça l'est pour moi. C'est que évidemment, selon qu'on rentre dans ce calcul, différentes choses, on n'est pas tout à fait. Pour les autres pays, notamment, on n'est pas sur les mêmes dates. Par contre, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'en France, vu la lourdeur des charges sociales, que l'on prenne votre calcul ou l'autre qui inclut toutes les dépenses, c'est de toute façon catastrophique.
Oui.
Jean-Baptiste, je sais qu'à Liberté Chérie, vous vous occupez beaucoup de ce qu'on appelle le salaire complet. Donc évidemment, les réflexions de Cécile sur la façon dont on calcule les charges des travailleurs m'a fait penser à votre travail puisque je crois que c'est sur le site de Liberté Chérie qu'on trouve ce fameux salaire complet.
Ça c'est un site à côté qui s'appelle salairecomplet.com.
D'accord.
Qui est un de nos projets majeurs et qui est un des combats principaux de Liberté Chérie. Donc là où ça devient très intéressant, on s'intègre complètement dans votre logique de jour de libération fiscale, c'est que nous on essaye de montrer plus clairement que sur la feuille de paie qui est clairement illisible pour beaucoup, pour la majorité, que les cotisations patronales et les cotisations salariales sont la même chose, qu'elles payent les mêmes prestations, et de définir un montant global, mensuel, investi sur la santé, sur l'assurance retraite et l'assurance chômage. Et là encore, donc nous, on n'a pas pu comparer avec d'autres pays, mais on arrive à un montant très élevé, notamment si on peut comparer par rapport à une assurance privée, une assurance santé privée, une assurance très élevée, donc du coup, des prestations de la sécurité sociale pour parfois des prestations qui laissent à désirer, je pense aux lunettes, je pense aux dents, et finalement qui pourraient être tout à fait traitées et beaucoup mieux par un autre système d'assurance et qui donnerait aussi le choix, une liberté d'agir, une liberté de choix là-dessus. Donc ces charges sociales sont traitées par le calcul de Molinari, sont complètement, on va dire, absorbées par le salaire, contrairement à ce qu'on peut dire du travailleur, et pas par une cotisation patronale, une cotisation salariale.
Oui, vous voulez dire, voilà. pour être parfaitement clair sens. Vis-à-vis de nos auditeurs, parce que je sais que c'est une notion qui est pas
c'est
évidente pour les gens.
Absolument.
Une entreprise décide d'embaucher quelqu'un, elle considère qu'il vaut tant.
Exactement.
Donc, elle est obligée de quasiment diviser par deux la somme qu'elle est prête à mettre pour l'embaucher. Ce qui sera réellement donné aux salariés, c'est pratiquement la moitié. Si je ne me trompe pas.
Oui, ce qu'on a calculé, c'est qu'en France, un employeur doit débourser 2,3 euros pour mettre 1 euro dans la poche de son salarié.
Donc c'est plus. Moi, je disais le
plus,
donc c'est
le
double.
Exactement, c'est plus que le double. Et donc, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il faut bien réaliser que le travailleur français qui arrive à obtenir un job, c'est parce qu'il est extrêmement productif, ou en tout cas suffisamment productif pour pouvoir couvrir ce coût pour l'entreprise.
Et donc alors, ce dont ne se rendent pas toujours compte, je crois, les gens, c'est que si on leur donnait cette somme, c'est-à-dire les 2,3 euros bien et non sûr. Pas 1 euro, multiplié bien évidemment par leur salaire, ils pourraient, eux, choisir, c'est bien ce que vous voulez dire, Jean-Baptiste, ils pourraient, eux, choisir de s'assurer à une assurance sociale de leur choix. Deuxièmement, d'adopter un système de retraite qui pourrait être par capitalisation ou autre, ou pourquoi pas d'ailleurs par répartition, mais en tout cas, ils choisiraient leur système de retraite. Ils choisiraient éventuellement d'avoir une couverture familiale qui correspondrait à ce que nous donne l'État pour pour la famille. Donc, on pourrait donner la totalité de cet argent aux salariés, j'ai bien compris, hein, c'est bien ça. Et libre à lui d'en faire ce qu'il veut. Donc, son vrai salaire... Hein, je résume, parce que c'est quand même des notions pas faciles. Son vrai salaire, et je regarde là, Cécile, Philippe et Jean-Baptiste, son vrai salaire, c'est à la fois le net qu'il touche, sa cotisation salariale et la cotisation patronale.
Exactement, exactement. Et vous avez eu, et vous avez Laurence Parisot, hein, qui il y a quelques années avait essayé justement avait proposé que qu'il y ait plus de transparence sur ces cotisations et évidemment les syndicats s'y étaient opposés.
Parce que j'allais dire pourquoi ça n'a pas abouti, ça paraît tellement malin.
Oui, ça n'a pas abouti parce que justement il y a encore cette, je pense qu'il y a au sein de la société française cette idée toujours de lutte des classes et que l'employeur doit payer. Parce que c'est un peu ce que ça transmet hein, comme idée, c'est que c'est comme si l'employeur payait pour plus que son salarié, alors qu'en fait c'est le salarié qui paye au bout du compte. Hein. C'est vraiment de la pure communication. Là, on est dans la communication, et ça mériterait vraiment justement de beaucoup plus de transparence, de sorte que le salarié se rende compte du coût de ces prestations sociales.
Et vous avez dit à juste titre que ça témoigne de la grande productivité des salariés français. Et justement, c'est une note d'optimisme. En même temps, ce que vous dites, et qui est très légitime, c'est que si on les libérait, les travailleurs français, de ce surpoids fiscal, de cette contrainte fiscale, l'économie française pourrait être dynamisée d'une manière phénoménale.
Et je dirais surtout, il y a tellement de gens qui pourraient enfin travailler, parce que tout le monde n'est pas aussi productif, je pense en particulier aux jeunes. C'est-à-dire que quand on arrive sur le marché du travail, eh bien, on n'a pas une productivité énorme parce qu'on a tout à apprendre, et donc on ne vaut pas un salaire qui est 2,3 fois le salaire qui devrait être celui qui est payé. Et par conséquent, il y a plein de jeunes qui se retrouvent sans possibilité d'avoir ce premier job tellement important pour ensuite grimper et obtenir des qualifications, des compétences et un salaire plus élevé, évidemment.
Je voulais juste, avant qu'on continue ce débat, et me tourner vers Jean-Baptiste qui voulait dire quelque chose, préciser à des auditeurs qui nous auraient rejoints en cours de route, qu'ils sont bien sur Radio Courtoisie, qu'ils écoutent la première partie du Libre Journal des Contribuables, qui réunit dans le studio Cécile Philippe, directrice de l'Institut Molinari, Laurent Arthur Duplessis, responsable des publications à Contribuables Associés, Jean-Baptiste Josseau, responsable, lui, de Liberté Chérie, et Coralie, qui est en charge des relations extérieures de Contribuables Associés. Cette émission ayant été enregistrée, je redis donc que vous ne pouvez pas nous envoyer de message et que vous êtes donc privé de la voix chantante de notre ami Bernard de Fabrec, qui vous les lit d'habitude avec son petit accent du midi. Alors, Jean-Baptiste, oui, vous vouliez ajouter quelque chose, puisque sur ce...
Oui, puisqu'on est aux dénonciations autour du salaire complexe, ce qui me semble très important de rappeler à chaque fois, c'est que ces sommes, donc pour la santé, la retraite et la maladie, vont à la sécurité sociale. Pourquoi on n'aboutit pas? Pourquoi on n'arrive pas à faire changer le système? Parce que la sécurité sociale n'est pas au budget de l'État. Elle n'est pas contrôlée et votée par nos députés. C'est une organisation à part qui est gérée par les syndicats. Syndicats de salariés et syndicats patronaux. Donc on comprend bien que puisqu'ils gèrent et qu'ils ont les clés de la maison, ils ne veulent pas qu'on mette notre nez dedans et qu'on aille changer les choses. Et c'est un gros problème aussi qu'on a là, un gros verrou, parce que ça avantagerait tout le monde finalement. Il y a l'insertion, vous l'avez très bien évoqué, l'insertion professionnelle. Il y a beaucoup d'éléments qui seraient libérés si on avait vraiment ce salaire complet déversé. Mais la partie que nous ne touchons pas va à la Sécu, qui est gérée par les syndicats. Encore une fois, le verrou qui nous empêche de faire les réformes utiles. Et puis, très important, la Sécu n'est pas l'État. Ce n'est pas au budget de l'État. Les députés n'ont pas de contrôle. Soit on nous dit, mais nos députés... Non, non, nos députés n'ont aucun contrôle. Ils ne savent pas. Ils ignorent ce qui se passe. C'est une association loi 1901, le statut de la Sécu, ce qui est toujours surprenant.
Ils votent quand même son budget.
Non, Non, le budget de la sécurité sociale, ils votent le montant des cotisations, mais le budget de la sécurité sociale est autonome. C'est des organismes paritaires, donc les syndicats.
Ils votent les cotisations.
C'est
alors.
Ça, aussi bien d'accord. Le MEDEF de Mme Parizeau que la CGT, le FO, les cinq centrales classiques, CFTC, CFDT, qui gèrent la Sécu. Mmh. Et à chaque fois, on a expliqué ça, c'est très méconnu et c'est très important pour bien comprendre où sont les verrous.
Oui, c'est important. Cécile. Et c'est vrai qu'il faut aussi il faut se rendre compte que en fait, si on a plus de transparence sur le montant donc des cotisations payées par le salarié, en fait, on ne devrait avoir que des cotisations dites salariales, eh bien, effectivement, les Français vont se rendre compte du coût de leurs prestations. Bon, il faut savoir quand même qu'en France, le système de santé reste un excellent système, mais qui est en voie de dégradation. Et surtout, c'est ça la tendance, hein, c'est que progressivement le système se détériore et qu'on va vers de plus en plus d'étatisation, alors que justement ce qui a fait jusqu'à maintenant la splendeur du système français, c'est qu'il était vraiment fermement ancré sur des piliers libéraux, la médecine libérale. Il y a tout un marché, je veux dire, de la santé qui n'existe pas dans certains pays comme le Canada ou l'Angleterre, et on voit les dégâts que ça peut causer en termes de gestion de la santé. Donc on a un véritable problème de monopole de l'assurance maladie, mais c'est vrai qu'on avait encore un système et un marché de la santé qui est en train de disparaître parce que justement, on n'arrive pas à revenir en arrière sur le financement et l'organisation du système de santé, sur ce fameux monopole de l'assurance maladie. Donc c'est vrai qu'une première chose, c'est de se rendre compte que ce système a des qualités, qu'il faut le préserver pour ses qualités, et ensuite se rendre compte qu'il coûte très cher, et donc il y a probablement d'autres méthodes de le gérer, et que ce n'est pas un monopole qui favorise les meilleures gestions du système.
Et c'est pour ça qu'il rentre dans notre calcul du jour de libération fiscale, pour y revenir, c'est que c'est quand même de l'argent qui nous est pris sans notre accord.
Absolument.
Donc c'est pas un impôt, c'est pas une taxe, mais c'est quand même quelque chose qui est prélevé. Quand on dit qu'on travaille pour l'État, la collectivité, oui, puisque ça n'est pas un choix personnel, et on est obligé de contribuer, et donc de contribuer aussi à la solidarité nationale, puisque dans cette cotisation sociale, il y a notre assurance. Donc là, les gens nous disent, ah bah oui, mais on a un retour. Oui. Mais on a aussi un système de solidarité qui fait qu'on rentre dans un système qui n'a plus rien à voir avec une assurance personnelle. Oui. Jean-Baptiste, et après Laurent.
Complètement, c'est ça qui est terrifiant. En France, au pays des libertés, on peut choisir où on assure sa voiture, on peut choisir où on assure sa maison, on ne choisit pas où on assure son corps, ses dents ou ses yeux. C'est peut-être problématique. Et là aussi, il y a un problème
de
liberté
individuelle. Et l'école de ses enfants.
Et l'école de ses enfants, on pourrait en parler aussi dans la...
Mais c'est vrai que c'est pas financé par des cotisations, mais
non,
par
mais c'est financé par la dépense publique, et je ne suis pas sûre que le résultat soit à la hauteur de ce que ça coûte. Et d'ailleurs, à cette occasion, je voulais le dire tout à l'heure, mais puisque vous tendez la perche, Laurent, qui dirige les dossiers du contribuable, à contribuable associé, donc on sort tous les trois mois un dossier sur un sujet unique, un dossier qui est d'ailleurs vendu en kiosque. Le prochain, celui qui va sortir le 1er septembre, sera sur le coût de l'éducation nationale.
Ah,
voilà, donc je vous l'annonce.
C'est la piste de réforme.
J'ai fait une digression, Laurent. Vous vouliez réagir au propos de Cécile Philippe.
Et justement, je voulais lui demander quelle part attribuer au verrou syndical, CGTistes et autres, et quelle part attribuer au MEDEF dans le blocage des réformes, puisque c'est une représentation paritaire que celle qui préside à la gestion des organismes de sécurité sociale. Mmh. Et alors, dans quelle mesure, justement, le MEDEF aurait-il le pouvoir de débloquer ce verrou ?
Moi, j'ai tendance à répondre à ce genre de questions que je trouve extrêmement complexes, parce que très honnêtement, je ne sais pas exactement ce qui véritablement bloque. Ce que je sais, c'est que ce sont les états d'esprit qui ne sont vraiment pas mûrs pour une évolution dans ce domaine. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est autour de cette table, pour justement essayer de donner un peu de clarté sur un certain nombre de concepts et de faits objectifs.
Et est-ce que ça ne met pas en cause la culture de nos élites, justement ?
Oui, de nos élites, mais aussi, je dirais, de la culture d'entreprise, de la culture autour d'une table. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à dire que, certes, le Parti communiste ne fait plus que quelques pourcents aux élections, mais néanmoins, ils ont gagné au niveau des idées. C'est-à-dire que on sent bien dans l'entreprise une véritable culture de lutte des classes, l'employeur contre l'employé. Tout le monde s'oppose dans une culture qui s'est véritablement ancrée au sein de la société française. Et c'est contre ça qu'il faut se battre, parce qu'il n'y a pas, par définition, un employeur contre un employé. Il y a un échange, justement, dans le cadre d'un contrat de travail pour produire des richesses. Et si on n'arrive pas à comprendre ça, on ne peut pas comprendre l'intérêt de l'échange et surtout les piliers sur lesquels une société se développe.
Et puis je crois que les gens aussi ont peur d'avoir la liberté de choix. C'est extrêmement confortable.
Bien sûr.
Je ne suis pas sûre, quand vous en parlez avec les gens, qu'ils seraient absolument ravis d'avoir besoin de comparer. Déjà qu'ils le font pour leur voiture et leur téléphone mobile. Alors si en plus, il faut qu'ils comparent le coût des assurances. Je pense qu'il y a une espèce de paresse, comme on vous a expliqué que l'État faisait forcément mieux que vous. Dernière guerre, avec... on vous explique que l'État vient à votre secours et fait tout très bien. Je ne suis pas sûre que... dans l'état actuel des choses, et avant que Contribuables Associés, Liberté Chérie et Molinari aient fait un gros travail d'ouverture des esprits, je ne suis pas sûr qu'actuellement, les gens seraient ravis tout d'un coup qu'on leur donne la liberté de choix, non Jean-Baptiste? Je me trompe? Peut-être les jeunes
Je vais rebondir sur deux sondages qui datent de 2002, dessus, où on avait posé deux questions à la même finalité, mais de façon très différente. On a d'abord posé la question aux gens, voulez-vous voir disparaître la sécurité sociale? 80% ont répondu non. Puis on a répondu à la question... voulez-vous avoir la liberté de choisir votre protection sociale? 75% ont répondu oui. Finalement, c'est aussi, on pointe là le problème des sondages, ça dépend de comment on pose des questions.
Bien sûr.
Mais le choix, les gens veulent le choix, les gens veulent toujours le choix. On a des libertés, on en a conscience, elles préexistent à tout et on veut pouvoir en jouir. Et surtout quand on peut réaliser avec des outils, comme le jour de la libération fiscale du contribuable associé, le jour de la libération donc, du contribuable de l'Institut Molinari et l'outil de salaire complet, que le montant qu'on verse pour nos impôts nous donne des prestations qui sont inférieures à montant égal à ce qu'on pourrait avoir dans certaines compagnies privées. Concrètement, sur salaire complet, si vous regardez pour ce que vous donnez pour la maladie mensuellement et le tarif des meilleures offres, AXA, Generali ou autre compagnie, il y a de quoi être déçu, particulièrement, le système français est très bon, vous l'avez dit, on ne va pas le remettre en cause, mais particulièrement pour les dents, et les problèmes de lunettes.
Ça, je suis ravie de vous en parler parce que moi, chaque fois, ça me scandalise.
Et avec un montant égal, le système privé serait bien meilleur.
Et puis, on peut peut-être aussi dire que la fonction crée l'organe. Je veux dire par là que, par exemple, si on se casse une jambe et qu'elle est plâtrée, elle s'atrophie dans le plâtre. Et lorsqu'on casse le plâtre, on récupère sa puissance musculaire par l'exercice. Et là, si le contribuable était habitué à comparer, etc., très vite, il deviendrait expert, d'autant que l'esprit français est très agile.
Oui, absolument. Et c'est bien une asymétrie qui existe entre donc, l'action de l'État et l'action du marché. C'est que lorsque l'État agit, il monopolise et il fait disparaître toutes sortes d'initiatives qui permettaient aux individus de réaliser que c'est possible. Parce qu'à partir du moment où vous avez un monopole de l'assurance maladie et donc plus aucune entreprise privée qui peuvent donner des prestations, elles ont disparu et les gens ne peuvent même plus imaginer que c'est faisable. Donc en fait, c'est vrai que ça rend... Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'insurge souvent contre le fait que tout le monde se tourne vers l'État. Mais bien sûr, une fois que tout a été supprimé, vers qui se tourner quand il y a un problème? C'est bien contre ça qu'on se bat et c'est ça qui rend aussi notre tâche tellement difficile et le choix des individus difficile parce qu'effectivement, il faut bien vivre au jour le jour et que quand on a un problème de santé, etc., on est content que le monopole existe et on a du mal à faire ce travail d'imagination, d'où l'intérêt effectivement de comparer avec d'autres pays qui, eux, ont tenté leur chance, comme par exemple les Pays-Bas ils sont revenus sur le monopole de l'assurance maladie. C'est un des seuls pays au monde qui a eu ce courage de dire fini le tabou sur le monopole, ouverture à la concurrence entre différents assureurs. Alors, leur réforme n'est pas parfaite, mais ils ont réussi à surmonter cet énorme, ce tabou. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire.
On va revenir d'ailleurs aux comparaisons internationales et à la difficulté justement. Mais Coralie, il y avait une question.
Oui, voilà, moi je voulais effectivement revenir au jour de libération fiscale. Ça fait un certain nombre d'années que Contribuables Associés travaillent sur ce sujet, que l'Institut Molinari également. Quelles sont finalement les réactions des contribuables français à cette révélation du jour de libération? Savoir qu'on travaille autant de jours pour l'État et si peu pour soi.
Eh bien, ça les met en état de sidération, pourrait-on dire. Parce qu'ils prennent conscience du poids de la fiscalité, justement, par cette quantification du nombre de jours qu'ils consacrent à financer la puissance publique. Et là, ils se rendent compte. du caractère confiscatoire du fisc français, et ça crée un profond sentiment de révolte chez le contribuable. Et cette révolte, on la sent monter de plus en plus là, avec le poids de la crise économique qui rend la vie plus difficile, le pouvoir d'achat qui a plutôt tendance à stagner, voire à décliner, notamment dans ce qu'on appelle les classes moyennes. Et du coup, la colère du contribuable monte. Elle monte d'ailleurs un peu partout en Occident, il faut bien le dire. Le Tea Party aux États-Unis est bien l'expression de la colère du contribuable américain, car l'État américain, comme on sait, est arrivé à un endettement qui a dépassé les 14 000 milliards de dollars parce qu'il est venu au secours des secteurs privés, etc. Enfin, des banques, des grandes banques.
Des banques qui sont bien loin d'être le secteur privé.
Et qui ne sont pas des adeptes du libéralisme économique.
Ouais.
Et de même, alors, en France, on a eu ces plans de relance qui ont encore alourdi le poids de l'endettement public.
L'année dernière, on avait été libéré le 28 juillet. Alors, on était un peu sidérés cette année de reculer, parce que d'habitude, on avance régulièrement.
Voilà.
Mais c'est les plans de relance qui se sont calmés, si je puis dire.
Et avec un PIB qui s'est un peu amélioré avec la reprise économique. Donc, le rapport d'ensemble s'est amélioré. Seulement, évidemment, sans verser dans des considérations macroéconomiques trop vastes. Mais maintenant, il y a une épée de Damoclès qui pèse sur les contribuables français, et pas seulement. C'est la hausse éventuelle des taux d'intérêt qui risque de faire remonter vers le haut le poids de la dette.
Alors, on parlera peut-être de la dette, parce que c'est effectivement, vous lancez un sujet très intéressant. Mais avant, je voulais quand même demander à Cécile, avec cette différence d'un pays à l'autre, donc des charges sociales, comment est-ce qu'on arrive à avoir une comparaison qui soit raisonnable entre les différents pays? Parce que c'est souvent, les gens qui sont opposés à nos calculs et à notre démarche, bien évidemment, nous disent souvent ça. Ah oui, mais alors dans les autres pays où il y a moins de dépenses publiques, il n'y a pas de prestations. Voilà. Donc, les gens ont souvent tendance à penser qu'on devrait retirer de la dépense le retour qu'on en a. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que nous, on nous prend beaucoup, mais on nous donne. Et on nous dit, bah, alors, comparé qu'un pays où il n'y a pas toutes ces charges sociales, c'est un peu facile, puis qu'ils sont obligés de les payer. Donc on mesure aussi un peu la liberté des gens, non, avec ces jours de libération.
Ah mais bien sûr, absolument, Benoît, c'est tout à fait ça, puisque effectivement, dans certains pays, vous payez moins et vous avez moins. Mais c'est exactement ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on veut avoir moins à payer pour avoir plus dans notre poche et donc plus de liberté de choisir et avoir donc des marchés concurrentiels, puisqu'on connaît, et je ne sais pas si je dois rappeler ici les vertus de la concurrence, mais justement c'est d'avoir des prestataires de toutes sortes qui ont pour objectif de faire plus avec moins de ressources, donc de toujours être meilleur que les autres. Et de
rien n'empêche l'État de continuer à essayer d'être dans
exactement,
dans la
mais en général, ils ont du mal. Hein. C'est bien le problème, c'est que souvent le monopole se légitime pour toutes sortes d'arguments économiques, mais qui, in fine, sont surtout le fait qu'ils ne sont pas aussi efficaces que des acteurs privés. Et donc, effectivement, ça mesure très clairement un degré de liberté, je vais pas dire un degré de liberté économique, c'est un degré de liberté tout court, puisque le fait de pouvoir choisir de dépenser son argent à de le dépenser ou de l'épargner, de le dépenser à l'éducation de ses enfants ou à des prestations de santé ou tout simplement dans un bon dîner, eh bien ça fait vraiment partie de la bonne vie dans nos sociétés. Et évidemment, c'est extrêmement important. Bon, après, attention, on compare les pays de l'Union européenne. On est dans des pays... Enfin, il faut quand même réaliser que dans tous les pays développés, tous les pays de l'OCDE et évidemment l'Union européenne, l'État n'a pas cessé de croître depuis plus de 100 ans. Je veux dire, on a une croissance non interrompue de nos États et de la dépense publique. Et justement, un des chiffres qu'on mettait en évidence, c'est que le taux d'imposition réel du salarié moyen au sein de l'Union européenne a augmenté. Et il est quand même aujourd'hui à 44% en moyenne au sein de l'Union européenne. Alors, je veux bien que...
Donc les pays étatistes ont pris le dessus sur les pays moins interventionnistes, si je comprends bien.
Partout, et c'est une tendance de fond. Et alors évidemment, on ne va peut-être pas parler de long en large en travers de la crise financière, mais depuis 2008, on est passé dans un niveau de dépenses publiques qui n'a jamais été vu en période de paix dans aucun pays. Donc c'est vraiment, on est dans une situation très particulière où en fait, plus personne ne sait véritablement comment les dettes vont pouvoir être remboursées. Hein. Et c'est ça aussi, c'est qu'il faut bien réaliser que ce fardeau fiscal, en tout cas tel que nous l'avons calculé, ne tient pas compte de la dette de nos États.
Alors, et des déficits. Vers Laurent, comment nous, on inclut quand même partiellement, serait-ce que par la charge de l'intérêt de la dette, on inclut dans nos dépenses, dans les dépenses que subissent les Français, cette dette, elle n'est pas totalement absente de ce fameux jour de libération.
Voilà, seulement évidemment, c'est quand même une bombe à retardement, cette dette, parce que, alors, comme on disait tout à l'heure, il y a le risque de la hausse des taux d'intérêt. Mmh. Alors cette dette, elle n'a cessé d'augmenter, passant de 78,3% du PIB en 2009 à 82,3% en 2010, et elle est annoncée à 85,4% en 2011, et même 86,9% en 2012. Mais ça peut être pire que ça encore.
Oui, moi je n'y crois pas du tout. Hein, parce
ça
que,
va être bien pire.
Bien sûr, puisque la situation est en train de se détériorer très rapidement. Donc,
Et alors là, du coup, nos malheureux contribuables, dont nous sommes, nous, contribuables, nous allons alors travailler encore beaucoup plus longtemps si ce dérapage que nous anticipons se réalise.
Bien sûr, et c'est pour ça que nous, on en conclut que compte tenu du poids fiscal déjà qui pèse sur les épaules de tous les contribuables, de tous les travailleurs, il n'y a pas de possibilité d'augmenter encore ce poids fiscal. Et donc la seule solution, c'est d'ailleurs votre cheval de bataille à contribuables associés, c'est celui de réduire les dépenses publiques coûte que coûte. Et j'aurais envie d'ajouter, pas n'importe comment, parce que nous, on a bien vu que dans le domaine de la santé, justement, puisqu'on en a parlé, les pouvoirs publics font n'importe quoi, sous prétexte justement qu'il faut réduire les dépenses publiques. Ils étatisent encore plus un système qui, sans faire d'économie, au bout du compte, réduit totalement nos libertés. Donc j'ai envie de dire, oui, réduisons l'école, hein, on attend au mois de septembre, parce qu'effectivement, en matière d'éducation nationale, de culture, quand j'entends que je crois que c'était Ségolène Royal ou Martine Aubry qui voulait donc augmenter de 50% le budget du ministère de la Culture.
Elle a toujours très bonnes idées, celle-là. Depuis les 35 heures, elle se surpasse.
Elle n'est pas raisonnable, même auprès de son public, même auprès d'un socialiste qui croit véritablement à ses idées. Ce n'est pas raisonnable de proposer quelque chose comme ça.
Jean-Baptiste.
Pour amener dans votre sens, la tendance, si on prend le cas de la Belgique, qui est un pays qui est socialiste depuis 30 ou 40 ans, les socialistes au pouvoir là-bas ont compris qu'il faut rentrer dans un plan d'austérité qui sera une baisse de la dépense publique combinée à des hausses d'impôts. Ce qui est bien, ce qu'on peut démontrer, ce qui démontre clairement ce qu'on tribunal associé dénonce depuis 20 ans, plus de 20 ans maintenant, c'est que le système socialiste de redistribution fait illusion pendant quelques temps de prestations, mais coûte beaucoup plus cher sur le long terme, et qu'on arrive maintenant sur des générations qui vont devoir payer ce qu'on a déjà consommé, et qui a une dette abyssale qui ne va cesser de grandir. Et il faut bien comprendre en termes d'économie que la redistribution est un fusil à un coup. Ça peut paraître généreux de dire, allez, nous sommes aujourd'hui 5 autour de la table, on a 100 euros, on va distribuer 20 euros. J'ai 100 euros, nous allons les distribuer, et nous aurons tous 20 euros. Donc
tout le monde est content.
Voilà, tout le monde est content. Mais à partir du moment où on redistribue plusieurs fois, et qu'on sort une fois de la redistribution, qu'on en fait un modèle et pas quelque chose d'exceptionnel, qu'on
peut souhaiter. Oui, le dépannage se comprend. Tout le monde peut être dans la mouise à un moment ou à un autre.
Qu'on peut souhaiter ou pas d'ailleurs, mais qui, une fois, a un sens scientifique, peut-être politique, ce serait discuté, mais n'a plus de sens une fois que c'est répété. Si on se mettait tous les jours à distribuer les 100 euros entre nous cinq, et bien au bout d'un jour, j'arriverai plus qu'avec 80 euros, puis 60, puis j'essaierai d'en cacher. Et on connaît le système. Puis on emprunterait.
Et comme on voudrait continuer à distribuer, on emprunterait et on en revient au problème de cette dette.
Donc c'est l'échec d'un système qu'on est en train de constater. Et en effet, ça va s'accélérer. On va de plus en plus loin. On rentre dans la période, dans la phase terminale de cette maladie économique qui a été l'application de politiques au mieux keynésiennes, voire totalement socialistes, de redistribution depuis maintenant 40-50 ans, depuis la fin de la guerre de 45 pour le cas de la France.
Et les guerres ont été les catalyseurs des États-providence, et y compris d'ailleurs aux États-Unis. Nous aimons beaucoup les États-Unis, mais il faut bien reconnaître que cet accroissement du poids des dépenses publiques n'a pas épargné les États-Unis avant même la crise de 2008. Il y avait une augmentation continue des dépenses de l'État américain.
Ouais.
Et je dirais un keynésianisme déguisé aux États-Unis avec l'aide à la politique agricole ou le complexe militaro-industriel, par exemple.
Et ne parlons pas de maintenant toutes les plans pour inventer une sécurité sociale à l'américaine, puisque tout le monde sait qu'on nous envie notre système.
Absolument.
Alors, je voulais quand même dire qu'il y a des petits pays qui s'en tirent très bien, puisque j'ai sous les yeux le tableau qui est fait par Laurent. Alors, vous avez peut-être d'autres, ça va être très intéressant de voir. Alors, nous avons parmi ceux qu'on envie le plus, nous avons la Suisse, où on est libéré le 2 mai. Alors, on comprend que les gens vont en Suisse. Vous n'avez pas la Suisse dans vos
cas. Mais non, parce qu'ils ne font pas partie de l'Union européenne.
Vous avez pris les 27 de l'Union européenne.
Alors, attendez, moi, j'ai pas la Suisse.
Alors, évidemment, moi, j'ai les États-Unis et le Japon, ça ne va pas aller, mais j'ai l'Espagne. Alors, on va voir si nos chiffres, ça va être amusant de voir si nos chiffres se rapprochent. Est-ce que vous avez l'Espagne?
Oui, mais ils ne sont pas très bons, les
Alors, l'Espagne, eh bien, alors nous, ils ne sont pas mauvais.
Ils sont pas mauvais, hein.
Ils sont libérés chez nous le 5 juin.
Le 19 mai, et ils sont en 6e place, donc ils sont en 7e place, ils sont quand même très très bien situés, effectivement.
Alors leur économie va pas très bien, ils ont des problèmes, mais on peut penser que ceux qui ont une économie moins étatisée, donc où il y a moins de redistribution, seront mieux placés.
Ce sont des économies qui peuvent rebondir.
Même si actuellement, on n'enlève rien, les malheureux, à leurs problèmes actuels.
Nous, vous voyez, en première position, c'est Chypre.
C'est les meilleurs.
Ouais, Malte. Et l'Irlande. Alors, vous voyez, l'Irlande, en ce moment, effectivement, traverse aussi de très grandes difficultés. Mais effectivement, ils vont probablement s'en sortir beaucoup plus vite que nos pays, dont on a dit qu'ils étaient protégés par leurs systèmes sociaux, mais dont maintenant, effectivement, on va voir toute la lourdeur de
cette redistribution,
cette incapacité à rebondir. C'est-à-dire que nous, on n'a pas eu un budget excédentaire depuis donc 74, ça fait pratiquement 35 ans. Et ça s'est corroboré à une véritable croissance en berne. Donc on s'y est habitué, en définitive, d'avoir pratiquement 10% de chômeurs, une croissance molle, etc. Mais c'est un coût incroyable humain, puisque on n'arrive plus à décoller, on n'arrive plus à être une société vraiment portée vers l'avenir.
Et on le voit notamment dans la surmortalité des jeunes entreprises. C'est-à-dire que les créations d'entreprises, au bout de 5 ans, il y a un taux de mortalité qui est faramineux parce qu'il n'y a pas assez d'accès au crédit. Et il y a un poids excessif des impôts, des taxes et des charges sociales. Résultat, le malheureux créateur d'entreprise en France, c'est un héros s'il y arrive.
Absolument. Et sans compter, je veux dire, moi qui ai donc un petit institut et qui passe par là, sans compter que le droit social est une horreur absolue.
Le droit du travail.
C'est ça, je voulais dire le droit. Oui, pardon, je voulais dire le droit du travail.
Et le poids de la complexité administrative.
Exactement.
Aussi.
Pour des petites structures, c'est vraiment accablant. Accablant, c'est le terme.
Jean-Baptiste.
Là-dessus, il faudrait faire attention à une illusion qui se développe, une question que pourraient se poser nos auditeurs, mais plusieurs lois permettent de défiscaliser son ISF pour les entreprises. On a réglé cela. On n'a pas du tout réglé ce problème. On a réglé pour les petites entreprises. Les grandes entreprises peuvent défiscaliser. Puis, il y a un no man's land, un trou au milieu.
No man's land. Oh là là, Jean-Baptiste, tu es obligé de payer le 1 euro de... Tout à l'heure.
Le cochon. Oui, il y a complètement un désert de toute une phase de développement d'entreprise où on ne trouve plus de capitaux, où ceux qui ont des idées, ceux qui ont des projets ne sont pas irrigués d'argent. Et alors, l'État a créé un fonds, pour donner l'exemple concret de la mesure de l'action de l'État et de l'interventionnisme, de 340 millions d'euros. Sur un communiqué de presse, ça fait très beau, mais le besoin est de 4 milliards. Donc, à quoi ça sert d'étouffer des contribuables pour mettre 340 millions d'euros, là où on a besoin de 4 milliards, et qu'il suffit de libérer l'économie. Donc, ce trou aussi, ce désert d'investissement pour les entrepreneurs et pour les projets, plombe la France à long terme. On arrive, vous l'avez très bien décrit sur le triptyque de contribuables associés, à une situation où on paye de plus en plus, on a de moins en moins de prestations, jusqu'au jour où on payera et il n'y aura plus de prestations. Si le système ne s'arrête pas autrement avant, il ne se réforme pas avant. Puis à côté de ça, il y a aussi les créateurs d'entreprises qui ont de moins en moins d'argent et l'illusion que quelque chose est fait pour lutter contre ça. Les moyens sont dérisoires, rien n'est fait. Les niches fiscales, c'est 30 000 euros. Selon le projet qu'on développe...
C'est dérisoire, les annonces du gouvernement. Dérisoire actuellement par rapport à l'ampleur du problème.
Mais ils en parlent. C'est-à-dire qu'ils commencent à en parler. Oui, mais c'est nouveau. C'est-à-dire que jusqu'à il n'y a même pas un an, on n'entendait pas parler véritablement de baisse des dépenses publiques. ça y est, ils en parlent tous. Bon, alors à mon avis, avec un peu trop de retard, parce que là, le train est passé, hein, et donc maintenant, il va falloir vraiment réduire drastiquement les dépenses publiques. Mais ils en parlent, donc je pense que le moment est venu de peut-être leur suggérer...
D'enfoncer le clou.
Exactement, et de leur suggérer des coupes drastiques dans les dépenses. Ça, c'est...
Et je crois que ça répond partiellement à la question de Coralie tout à l'heure sur l'utilité d'avoir créé ce jour de libération. C'est que je crois que les économistes et ceux qui nous dirigent, à moins d'être totalement aveugles, savent qu'on va dans le mur. Ouais. Ce qu'on a fait aussi bien à Contribuables Associés que vous à l'Institut Molinari, mais je pense aussi à l'IFRAP, oui. C'est d'avoir mis ça sur la place publique.
Oui, oui,
et si on en parle, c'est parce que je crois qu'ils sont obligés d'en parler, nos chers politiques. Oui. Autrement, ils continueraient à se faire du souci entre eux en disant « Oh là là, si les Français savaient !» Mais ils continueraient entre eux. Je pense qu'on a eu le mérite et on va continuer.
Bien sûr,
c'est d'ouvrir les yeux des Français. Ça, c'était là une des réponses que je vous fais tardement, Coralie. C'est que je pense qu'il y a un moment, on ne peut pas avoir des politiques plus raisonnables que ne le sont leurs électeurs. Je veux dire, attendez, eux, si leurs électeurs veulent qu'ils dépensent et saluent leur côté bourse déliée, j'allais dire, c'est leur métier d'être élu. Ouais. Attendez, à la limite, on peut à peine leur en vouloir, même si c'est pas bien. Alors que je pense qu'on participe à dire aux gens... Attention, oui. et le fameux jour de libération, je crois que je l'ai déjà dit à ce micro, mais ça m'avait tellement amusé, c'est dommage qu'ensuite il n'en ait tiré aucune conséquence pratique, c'était Sarkozy qui dans sa campagne avait dit, c'est quand même pas normal que les Français travaillent au-delà du 1er juillet pour la collectivité. Ça m'avait fait beaucoup rire, parce que on ne l'aurait pas lancé, il n'aurait jamais dit
Absolument.
Cette phrase-là.
Exactement.
Donc
fait,
il ne l'aurait jamais dit. Ouais. C'était vraiment une allusion directe à cet effort de vulgarisation qu'on avait eu. Hein,
et je pense que...
Et d'où aussi Pardon. Le fait que Contribuables Associés a lancé une campagne pour la démocratie directe parce qu'on voit que la démocratie directe mène en général à une diminution de l'impôt.
Si on a le temps, on en parlera un petit peu.
Je voudrais juste ajouter qu'effectivement, il faut absolument refuser systématiquement et obstinément qu'on parle d'augmentation des impôts en France pour résoudre les problèmes. Sans parler de réduction des dépenses publiques. Et quand je dis refuser d'augmenter une augmentation des impôts, je pense mais à tous les impôts et je pense aussi à ces fameuses idées très, très à la mode d'imposer de nouveau les riches, etc. Il faut bien, et là je vais parler d'économie, mais il faut bien réaliser que l'argent ne dort jamais, qu'il appartienne à un riche ou à un travailleur moyen ou peu importe. Le drame de nos sociétés, c'est de manquer de capital. Qui peut être utilisé par les entreprises pour investir, créer des richesses et ensuite recycler tout ça et donc accumuler du capital. Si nos sociétés se portent aussi bien et sont aussi riches, c'est parce qu'on a derrière nous des décennies, des siècles de gens qui ont pu épargner et investir grâce à du capital. Et nous, on a interrompu ce processus à cause de politique keynésienne et de dette à tout va. Et donc, il faut renouer avec cette idée de capital. Et pour renouer avec cette idée de capital, il faut bien penser que le capitaliste, ce n'est pas forcément le grand méchant. C'est celui qui finalement embauche, paye des salaires, crée des richesses. Et donc, il faut aussi arrêter avec cette idée de vouloir systématiquement imposer les riches comme si c'était la solution miracle à nos problèmes de dette. Non, le problème et la solution surtout, c'est de réduire les dépenses publiques et de redonner de l'air au secteur privé.
Merci Cécile. Je vous interromps deux secondes tous pour dire aux auditeurs qui auraient pris ce journal en cours de route que c'est celui des contribuables, qu'on est dans la première partie, que vous venez d'entendre Cécile Philippe, qui est directrice de l'Institut Molinari. Vous avez aussi entendu Laurent-Arthur Duplessis, qui est responsable des publications à Contribuables Associés, Jean-Baptiste Josseau, qui lui s'occupe de Liberté Chérie, et Coralie, qui est chargée des relations extérieures à Contribuables Associés, et qui débute dans cette émission. C'est pour ça qu'on n'entend peut-être pas beaucoup, il faut qu'elle fasse ses classes. Mais surtout qu'elle n'hésite pas à poser des questions s'il y en a qui lui viennent à l'esprit. Donc je vous ai interrompu, nous étions sur un débat tout azimut, donc tout y est passé. Nous avons parlé des dettes, mais on a bien évidemment rapidement conclu qu'on n'arrête pas les déficits pour essayer d'endiguer la dette en augmentant les impôts, mais en baissant les dépenses, parce que les orthodoxes, si je puis dire, budgétaires, c'est ce qu'ils disent. On peut plus, on va dans le mur, il faut absolument augmenter les impôts. Il y a une autre solution. Hein.
Absolument.
Oui. Vous l'avez dit et redit.
Surtout à ce stade, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Et puis vraiment, je dis, avant de parler d'augmentation des impôts, ben, qu'on nous montre qu'ils sont capables de baisser les dépenses. Parce que pour le moment, il y a un grand point d'interrogation. Sont-ils capables? Les Français sont-ils prêts à accepter aussi? Parce qu'il y a aussi ça, hein, c'est qu'il faut aussi que tout le monde fasse front et soit conscient que eh ben, on ne peut pas continuer... dans cette grande fiction, hein, comme disait Bastia, où chacun vit aux dépens des autres sans trop savoir combien ça coûte. Non, il faut revenir à une vérité des prix, à une vérité de ce que les choses coûtent, et que par conséquent, il faut moins dépenser, quoi.
C'est... Alors, on va voir, peut-être qu'on a des idées les uns et les autres sur où va-t-on couper ? Parce que c'est généralement la question qui vient. Et il y a toujours, hélas, des gens pleins de bonnes intentions qui nous disent « mais on manque de policiers et d'infirmières ». Donc, on pourrait... Et d'institutrices. Donc, on pourra peut-être voir, faire un petit tour de table sur les dépenses possibles. Mais Jean-Baptiste, vous voulez prendre la parole ?
Oui, pour nous, défenseurs donc, de la concurrence et du secteur privé, il est, je pense, très important d'expliquer, parce que ça peut faire peur quand on dit qu'il faut passer de moins d'État à plus de privé, que la qualité de service aussi va suivre. Le lien entre fiscalité et concurrence est primordial, parce que quand un service est géré par l'État, le docteur en économie, c'est Philippe, l'a précisé, on ne paye pas le vrai prix. Le billet de train n'est pas au vrai prix, parce qu'une partie du fonctionnement de la SNCF est payée par les taxes. L'eau n'est pas au vrai prix. Voilà. Alors, on a ces fois l'illusion que la concurrence fait monter les prix. Pas du tout. La concurrence revient au vrai prix. Ce qui est scandaleux et qu'il faut dénoncer, c'est que quand l'État s'est arrivé, malheureusement pas assez, mais en France aussi, privatise un secteur, le prix devient le vrai prix avec l'ouverture à la concurrence, mais les taxes qui servaient à financer le service ne sont pas supprimées. Et on continue à percevoir la taxe sans plus assurer le service qui est maintenant assuré pour privé. Du coup, on a cette illusion, la concurrence parfois fait monter les prix. Il y a des gens qui disent « moi, dans ma commune, sur l'eau, ça fait monter les prix ». Mais là, l'ennemi, ce n'est pas la concurrence. La concurrence a ramené au vrai prix et vous a donné le choix et globalement fait quand même baisser les prix. L'ennemi, c'est qu'il y a eu une malhonnêteté dans la privatisation, on n'a pas supprimé la taxe qui allait avec. Et c'est ça qu'il faut dire, il ne faut pas se mettre à critiquer la concurrence, à tomber dans cette facilité et à perdre de vue la réalité économique, mais il faut vraiment demander à chaque fois que la fiscalité suive le schéma.
Même en dehors des taxes, j'ai envie de dire, si par hasard on avait prenons les trains, puisque moi je prends beaucoup le train, si tout d'un coup on se mettait à payer son billet à son vrai prix, on aurait peut-être une mauvaise surprise.
Mais surprise.
Ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'à travers ces impôts, on paye les billets de train des autres, dont notamment ceux des agents de la SNCF qui voyagent gratuitement ainsi que leurs familles. Donc, il faudrait aussi, une fois de plus, rétablir les choses dans leur... Alors, c'est pour ça que c'est un travail de longue haleine.
Absolument.
Parce que oui, je vais payer mon billet plus cher. Je pensais aussi à la garde des enfants, Cécile, puisque vous avez une tout petit bout de chou.
Oui.
C'est vrai que si on payait les crèches publiques à leur prix, ça serait absolument faramineux. D'ailleurs, on s'apercevrait qu'il y a des moyens de garde beaucoup moins onéreux.
Oui, celui de la nounou, tout bêtement et avec finalement un marché heureusement qui est très vivace, parce que sinon les places en crèche étant tellement rares
et tellement chères à réaliser et à faire fonctionner, ce qui est une aberration.
Exactement.
Mais moi je préférerais avoir le choix de la garde j'en suis aux petits enfants, mais je pense que j'aurais préféré avoir le choix de garde de mes petits enfants qu'on ne me prenne pas ça par mes taxes. Alors là c'est pour les impôts locaux, hein, parce que généralement géré par les villes, et que je paye plus cher le service. Et je crois que vous avez raison d'avoir mis le sujet là-dessus, parce qu'alors on en revient à notre jour de libération fiscale. Je tiens beaucoup à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'est une mesure à la fois, bien évidemment, de ce qu'on paye, mais de notre liberté, puisqu'on pourrait faire autrement.
Voilà, et dans la liberté, j'ai envie de dire, ben, la responsabilité, parce qu'effectivement, il faut aller, moi je suis prête à aller jusque-là, parce que c'est, la vérité économique, c'est qu'effectivement, quand on privatise certains secteurs, qui pendant des années ont été subventionnés, donc on en a caché le prix réel, effectivement, quand ça va être fourni sur le marché, ben ça peut coûter plus cher. Mais c'est la vérité. Et c'est pour ça, et c'est ce qui permet de savoir combien coûte réellement la production d'un service, et d'ailleurs de décider si on veut l'avoir ou pas, ce service, finalement. Donc, tant qu'on n'a que des services publics, déjà, on n'en sait pas le prix, et on n'a pas un processus concurrentiel qui, lui, à terme, peut entraîner une pression à la baisse des prix, puisque en général, quand on a des concurrents, chacun cherche les méthodes les plus efficaces pour produire un service donné et donc à un prix réduit. Mais un des grands problèmes, et c'est d'ailleurs, ça rejoint notre problème à propos des cotisations salariales ou des cotisations patronales, on cache la réalité d'un coût, on cache la réalité d'un prix et par conséquent, on ne fait pas de décision économique rationnelle et on infantilise les gens. C'est-à-dire qu'on pense qu'un service peut être pratiquement gratuit alors qu'il est tout sauf gratuit.
On l'entend souvent d'ailleurs.
Exactement.
Oh, l'hôpital, c'est très bien en France, c'est gratuit.
Eh oui, oui.
Mais sauf c'est pour ceux qui effectivement n'ont jamais payé de cotisation. Ça arrive et on paye pour eux et on peut être pour ou on peut être contre. L'autre jour, on avait notre émission sur les immigrés. Après tout, on peut être prêt à les accueillir.
Absolument.
Faut juste savoir que dans notre cotisation sociale, qui est a priori une assurance personnelle, on paye la solidarité pour des gens qui n'ont jamais cotisé à rien et viennent se faire soigner en France. C'était une petite parenthèse, mais c'était le sujet de notre dernière émission. Coralie et après Jean-Baptiste.
Dans le même genre, effectivement, vous parliez de la culture tout à l'heure, Cécile. La mairie de Paris avait fait une campagne de publicité en invitant les citoyens à aller visiter gratuitement les musées, sachant qu'ils sont déjà payés par le contribuable. Donc c'était vraiment...
Oui, voilà, c'est de la pure
publicité mensongère.
Dans notre démarche de casser cette stratégie de communication fiscale, mais qui est un pur mensonge, comme on l'a vu, c'est vraiment ce qu'on voulait faire avec salaire complet. Le travailleur croit que la ligne principale, parce qu'en plus c'est assez complexe, qu'on ne connaisse pas toutes les lignes, des cotisations salariales de la santé paye toutes ses prestations de santé, alors qu'il faut ajouter à ce chiffre les autres lignes, vous savez, celles qui ont des nominations qu'on ne peut pas comprendre, et puis les cotisations patronales. On arrive au vrai prix, et là, une fois qu'on a reconstitué ce vrai prix, comme vous l'avez sur salaire complet, allez comparer avec n'importe quel comparateur d'assurance sur Internet. Une fois qu'on a retrouvé le vrai prix, la concurrence fait baisser les prix. Si on change les données et qu'on parle de faux prix, d'une seule ligne des cotisations salariales, des cotisations patronales, là tout est possible. Mais...
Alors quelle solution pour faire avancer le jour de libération, Laurent? Est-ce qu'on peut espérer redescendre en dessous du 14 juillet? Puisqu'à une époque, on était libéré le 12 juillet, c'était pas terrible, enfin c'était un peu moins pire.
Justement, moi je
vous
pense,
avez des pistes?
Je pense que la campagne de démocratie directe de contribuables associés est extrêmement pertinente, parce qu'en effet... Vous disiez, Cécile, tout à l'heure, est-ce que les Français seraient prêts, etc. La meilleure façon de le savoir serait de leur poser la question. Et la démocratie directe est riche d'enseignements parce qu'elle est appliquée intensivement en Suisse depuis des siècles et notamment depuis 150 ans, et aux États-Unis depuis la fin du 19e siècle en Californie, et elle s'est répandue à 26 États américains. Et que le voit-on? C'est que la démocratie directe fait diminuer la pression fiscale. C'est-à-dire que lorsque l'on consulte, lorsque le peuple se saisit lui-même finalement de ces questions, puisque c'est ça l'esprit de la démocratie directe, c'est le peuple qui se saisit lui-même et qui n'est pas saisi par le sommet de la pyramide, par le chef de l'État, etc. Eh bien, le peuple, il a tendance à être beaucoup plus raisonnable que ses représentants parlementaires. Et le peuple, comme il sait avec son bon sens que ça sort de sa poche, tout ça, eh bien, le peuple, il a envie qu'il en sorte moins de sa poche. Et donc le peuple, il fait pression en faveur d'une diminution de la fiscalité, si bien qu'aux États-Unis, dans les années 80, la révolution fiscale initiée par Ronald Reagan n'a pu être possible que parce que la démocratie directe est en vigueur dans 26 États américains. Et le Congrès tout seul n'aurait pas promu cette révolution fiscale. Et il a fallu le secours de la démocratie directe pour que Reagan puisse faire passer au Congrès son train de loi fiscale réformatrice. Et le Congrès, ayant subi la pression de la démocratie directe, s'est exécuté. Donc, on voit bien que la démocratie directe pourrait être un outil tout à fait essentiel pour diminuer la pression fiscale en France. Et j'avoue que je suis assez optimiste, moi, là-dessus. Je pense que si on consultait les Français là-dessus, avec une bonne pédagogie, car la démocratie directe ne peut exister qu'avec une bonne pédagogie, comme on le voit en Suisse, aux États-Unis, où il y a des campagnes longues et très, 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 instructives. Et les gens s'y intéressent quand on se donne la peine de leur expliquer autrement qu'en langue de bois, comme le font nos hommes politiques, qui parlent un charabia épouvantable. Mais quand on leur explique en langage clair, simple, est concis et précis, ben les gens, ils comprennent ce qu'on leur dit, mais s'ils ne sont pas idiots, et ils votent en faveur d'une diminution de la pression fiscale.
Alors... Et pardon Cécile, je voulais juste ajouter un petit mot de publicité pour Laurent, puisqu'il ne l'a pas fait lui-même. C'est que je disais qu'il avait donc réalisé un triptyque, un petit document très pratique sur le jour de libération fiscale, avec les tableaux comparatifs avec les autres pays et des courbes de la dette. Il a aussi réalisé un petit triptyque sur la démocratie directe. Donc que nos auditeurs n'hésitent pas à nous les demander, on se fera un plaisir de le renvoyer, n'est-ce pas Coralie, puisque c'est vous qui êtes en charge de ça. Donc pareil, en 5 pages, vous aurez tout compris de ce qu'est la démocratie directe, là où elle fonctionne, pourquoi en France, ce qu'a initié la réforme constitutionnelle de 2008 est une arnaque totale, puisque c'est une fausse démocratie directe qu'on nous promet. Donc n'hésitez pas, vous pouvez appeler Coralie au 01 42 21 16 24. Vous pouvez nous écrire au 42 rue des Jeuneurs 75 002. Vous pouvez aller sur nos sites www.contribuable.org ou bien lecri.fr. Voilà. Alors, je vais laisser le temps aux autres aussi, maintenant qu'on a fait la petite publicité pour Contribuable Associé, de nous dire comment on peut rejoindre leur... leur site ou se procurer des études de l'Institut Molinari, Cécile.
D'accord, on a encore juste 2 minutes.
Oui, bien sûr, on peut pas. Vous pouvez répondre à Laurent et après, non, c'est que je voudrais pas oublier, parce que quelquefois, après, on me fait signe que l'émission est finie, j'ai pas eu le temps de dire aux auditeurs, donc il faudra le faire. Voilà.
Ok, non, je voulais juste.
Non, vous avez largement le temps de répondre à Laurent.
Entendu, je voulais répondre sur donc, cette idée de démocratie directe. Je dois dire que moi, je reste focalisée sur mon dada, c'est-à-dire que. Ok, la pression fiscale, c'est important, mais parlons de baisse des dépenses publiques. Parce que même sous Reagan, il faut quand même réaliser qu'effectivement, il y a eu une certaine révolution fiscale, mais c'est quand même sous Reagan que l'État américain devient déficitaire pour la première fois, alors qu'il était excédentaire. Et donc, qu'on ne peut pas parler aussi de baisse de la pression fiscale sans parler de baisse des dépenses publiques, parce que sinon, ça veut dire que les dépenses publiques vont être financées par l'endettement, et on se retrouve donc... Au bout du compte, avec le même problème, parce qu'avec des dettes qu'il va falloir rembourser et qui vont à leur tour appeler à une augmentation de nouveau de la pression fiscale, comme on vient d'observer, parce que, effectivement, au sein de l'Union européenne, la pression fiscale a augmenté et elle a augmenté sous la forme de hausse du taux de TVA dans 13 pays de l'Union européenne. Et donc, attention, c'est-à-dire qu'on a véritablement un problème de la place de l'État dans nos économies. Et je pense que véritablement, la question que chaque auditeur doit se poser et que chaque Français va devoir se poser dans les prochaines années, c'est qu'attend-on de notre État, quelles sont les prestations qu'il doit donner et qu'est-ce que nous devons produire nous-mêmes pour pouvoir avoir une société prospère. Parce que là, on a des dettes que personne ne va pouvoir payer. Donc on va assister à des rééchelonnements dans tous les pays avec des désastres financiers extrêmement lourds et aux conséquences d'ailleurs qu'aucun économiste ne cerne vraiment parce que c'est une situation tout à fait unique. Et donc, véritablement, parlons avant tout de la réduction de la taille de l'État. Ouais. Et effectivement, si... démocratie directe, c'est efficace pour ça, allons-y.
Absolument, c'est ce que je voulais dire, Laurence, mais je pense que Cécile, Laurent aurait pu le dire aussi, mais j'y tiens beaucoup, c'est que la plupart et beaucoup des référendums qui se font à travers le monde, et je pense aux États-Unis où il y en a plusieurs centaines par an, porte souvent sur des dépenses et pas tellement sur on interroge rarement les gens pour leur dire est-ce que vous voulez un impôt ou pas. On leur pose la question est-ce que vous voulez la création de telles dépenses. Pensez en France si on leur demandait est-ce que vous êtes prêt à payer pour la Grèce. Je suis pas sûr qu'il ait la même réaction les Français que les dirigeants internationaux. Donc je pose au niveau local où ça peut être extrêmement efficace. Si on demandait aux gens d'un petit village s'ils veulent vraiment une médiathèque qui va les endetter pour 20 ans, je pense que leur réponse serait beaucoup plus raisonnable que celle de leur maire. 30 secondes pour Laurent et après Jean-Baptiste.
Et juste justement, en réponse, Cécile, à votre parfaite et légitime objection, à laquelle j'adhère complètement, il faut développer le référendum d'initiative fiscale au plan national. Parce qu'effectivement, il y a les référendums locaux qui concourent à une diminution de la dépense publique locale, parce que souvent, les contribuables locaux n'ont pas envie que leurs élus locaux fassent des prodigalités. Oui. Et il faudrait plus donner, de manière générale, au peuple la parole au niveau national pour juger, justement, de la politique fiscale des gouvernements et justement, contrer cette dérive que vous dénoncez à juste titre.
Oui. Jean-Baptiste.
Bon, d'abord, je vais reprendre les propositions de Laurent et de Cécile. Je suis parfaitement d'accord. La démocratie directe et réduire l'État et puis faire ça correctement. J'ai l'impression qu'une majorité des Français a déjà voté pour ça à travers les promesses des différents politiciens qu'on a élus. Par contre, ça ne se fait pas. Et il y a un vrai problème de la réforme intelligente que les laboratoires de pensée comme Molinari, s'ils étaient plus écoutés, pourraient corriger.
Ça viendra.
Il faut réduire...
On s'acharne, ça met du temps.
Il faut réduire l'État, notamment, on l'a évoqué dans l'émission, dans l'éducation nationale. Et en même temps, on entend, il n'y a pas assez de profs. Pourquoi ? Parce que les fonctionnaires ne sont pas dans les classes dans l'éducation nationale. Il faut réduire le nombre de fonctionnaires, mais pas bêtement, en remplaçant pas pour précariser certains statuts ou faire baisser le niveau de service public dans un guichet. Mais aller chercher les gens qui n'ont pas travaillé depuis 10 ans parce qu'ils ont une spécialité telle qu'ils ne veulent pas se remettre à travailler. Aller chercher les gens qui sont détachés à des projets qui ne servent personne et qui ne servent à rien. Aller chercher les syndicalistes qui devraient être payés par les cotisations de leur syndicat et pas dans des fonctionnaires comme s'ils participaient au service public. Aller chercher ces cas-là, réduire d'abord l'État par là pour faire baisser le coût sans faire baisser le niveau de prestation.
Merci Jean-Baptiste. Alors comment est-ce qu'on peut vous retrouver Jean-Baptiste ? Si on est internaute, je pense que vous avez un site, c'est relativement simple.
Exactement, on a le site liberté-chérie.com et le site que j'ai beaucoup évoqué, salairecomplet.com.
Donc liberté-chérie.com et salaire.com. Si on n'est pas internaute, on ne peut rien savoir sur vous. Tous nos auditeurs ne sont pas internautes.
Alors, il y a un numéro de téléphone sur lequel on peut joindre l'association qui est le 06 62 34 92 65.
Et vous avez des documents à envoyer éventuellement ?
On peut envoyer des documents.
Écrits, imprimés.
Complètement.
Cécile Molinari.
Bien Molinari, donc c'est surtout donc un site internet aussi, effectivement, puisque il faut bien... C'est comme ça qu'on a pu exister, hein, parce que ça réduit drôlement les coûts de fonctionnement.
Et c'est un outil extraordinaire,
c'est un outil pour diffuser les idées. Donc on peut donc nous voir au www.institutmolinari.org. Et donc n'hésitez pas à vous inscrire à notre lettre d'information hebdomadaire. Il suffit donc de cliquer et de s'inscrire et hop, on reçoit donc la lettre d'information. Et sinon, eh bien, à l'occasion, comme on publie régulièrement dans les Échos, la Tribune, le Cri du contribuable de ce mois et d'autres publications, on avait une interview dans Le Pèlerin, le magazine Pèlerin, là, une grande interview au mois de juin. Donc, on peut nous voir comme ça par.
Non, mais je me demandais si quand vous avez une étude de fond un peu plus sophistiquée, publiez par écrit.
Non, on publie vraiment tout.
D'accord, vraiment tout sur Internet.
Et à la demande, on peut les imprimer et les envoyer.
Voilà, quelqu'un qui serait vraiment très intéressé qui vous le demande.
Il peut nous appeler et puis nous demander cette étude.
Alors, je voulais aussi bien évidemment faire une page de publicité pour Radio Courtoisie, quand même, c'est la moindre des choses, puisqu'on se plaignait qu'on a du mal à se faire entendre, qu'on n'est peut-être pas assez repris, encore que si vous étiez dans certains magazines. On a eu les honneurs de la presse ces derniers temps avec un certain nombre de publications.
Je trouve que c'est beaucoup plus facile que ça l'était.
Ça bouge énormément.
Me sens très, très confiante.
Mais enfin, néanmoins, je pense qu'il faut que Radio Courtoisie existe. Alors, je me permets, à la demande de notre directeur Henri de Lesca, de faire appel en cette période estivale à votre générosité, parce que je sais que c'est toujours en début d'année tout va bien, et puis avec le printemps puis l'été, les finances s'amenuisent, et donc je pense que si vous voulez qu'on donne la parole à des gens comme Cécile Philippe, comme Jean-Baptiste, si on peut venir continuer à parler de nos activités à contribuables associés, c'est extrêmement important que vous souteniez Radio Courtoisie, y compris en été. C'est pour ça que je me permets de faire un petit appel. Surtout, c'est la première des cotisations que vous devez envoyer avant toute autre chose. Alors, je vais donc remercier mes invités. Ils vous ont dit comment les retrouver. J'ai annoncé donc la publication du 1er septembre, chapeautée par Laurent sur l'éducation nationale. L'expert qui en a donné les chiffres est Jacques Bichot, que nous aurons d'ailleurs à l'antenne le 30 août pour notre prochaine émission. Voilà, avec Laurent, bien sûr, qui sera là. Vous voulez dire quelque chose, Laurent, parce qu'on a 3 secondes avant de passer la parole à Patrick Simon.
Eh bien, ce que nous prépare Jacques Bichot sera très croustillant.
Merci. Alors, je ne passe pas, comme d'habitude, en direct la parole à Patrick Simon en échangeant quelques mots avec lui, puisque, comme nous, il aura enregistré cette chronique dont vous allez profiter. Bonnes vacances pour ceux qui en prennent.
L'Express de la semaine dernière titrait « 111 raisons d'être optimiste pour la France ». Et c'est une longue liste où figurent un tas de choses inutiles, secondaires ou révélatrices de modes superficiels, de snobisme caractéristique de ce journal. Mais parmi cet ensemble hétéroclite, on trouve tout de même quelques cas de réussite et d'accomplissement qui méritent vraiment d'être signalés et qui nous démontrent que les choses ne vont pas si mal dans notre beau pays malgré nos difficultés. Je vais donc énumérer ma sélection. Première bonne nouvelle, le taux de fécondité des femmes françaises est le plus élevé d'Europe. Nous sommes sans doute le pays d'Europe où l'on aime le plus avoir des enfants. Et ne me dites pas que ce ne sont que les immigrés qui ont des enfants, car on a constaté qu'ils sont également touchés par la baisse générale de la fécondité qui se produit dans les pays développés. Et puisque vous trouvez qu'ils ont trop d'enfants, ben vous n'avez qu'à en avoir vous-même. Arrêtons de nous trouver toujours des motifs d'insatisfaction et de plainte. Deuxième bonne nouvelle, la France est classée quatrième sur 192 pays pour la qualité de vie. Malgré la fiscalité, malgré la proportion plus importante qu'ailleurs de gens jaloux et méchants, malgré l'étatisme, on aime vivre en France, sans doute du fait de notre art de vivre, et aussi de la beauté de nos paysages et de nos architectures. Et je soupçonne que dans cet art de vivre, beaucoup d'étrangers nous envient la liberté des relations qui existent entre les hommes et les femmes. La « galanterie » entre guillemets est d'origine française. Le mot est d'ailleurs conservé en français par les anglo-saxons lorsqu'ils le citent. Il existe chez nous quelque chose qu'on ne trouve que rarement ailleurs, un équilibre entre la passion jalouse et vigilante qui règne souvent dans les pays latins et une sorte de séparation des sexes dans les pays anglo-saxons, une indifférence polie entre hommes et femmes, ou bien la guerre des sexes, ou encore les nouvelles formes du puritanisme moderne que revêt le féminisme américain. On me dira que de la galanterie à la séduction, il y a un pas facile à franchir, et de la séduction à la passion amoureuse ou à la sexualité aussi. Mais est-ce vraiment si fâcheux d'avoir cette perspective en vue? Le plus souvent, elle est sans conséquence et ne fait que mettre du piment et de l'éclat à des approches qui, autrement, pourraient être ternes ou conventionnelles, et c'est sans doute cela que beaucoup d'étrangers nous envient. Troisième bonne nouvelle, nous avons la deuxième armée du monde, à rang égal avec le Royaume-Uni, en termes de capacité et de projection de puissance, je cite l'Express. Malgré les coupes sombres dans le budget, nous restons une des rares nations à pouvoir intervenir dans plusieurs endroits du monde, comme nous le démontrons en ce moment en Libye, en Afghanistan et en Côte d'Ivoire. Même si nos moyens militaires reculent un peu, ils restent suffisamment importants pour que l'on puisse avoir une influence. Quatrième bonne nouvelle, nous avons toujours la meilleure cuisine du monde, malgré les chaînes industrielles de restauration rapide, et même si cela s'est amélioré dans d'autres lieux de la planète, comme à Londres par exemple. Cinquièmement, grâce au TGV, nous pouvons désormais parcourir en moins d'une journée le pays du nord au sud, d'ouest en est, et conclure une affaire en un temps très court. Cela nous rend plus dynamiques. L'inconvénient est que, évidemment, les investissements qui ont été nécessités par le TGV ont coûté très cher aux contribuables. Mais enfin, il existe. Sixièmement, nous sommes toujours à la pointe de la nouveauté en ce qui concerne la mode et la parfumerie. Pensez à L'Oréal, par exemple. Mais surtout, nous avons toute une série de groupes multinationaux qui sont prospères et qui réussissent de belles performances dans de nombreux secteurs. L'aéronautique, Airbus et Dassault, l'agroalimentaire, Danone, Doux et d'innombrables autres, la construction de moyens de transport, Alstom, le BTP, Bouygues et Vinci, le nucléaire civil, EDF, l'industrie pharmaceutique, l'assurance, AXA, la banque, BNP, les pneus, Michelin, bon, j'en oublie certainement parce qu'il y a vraiment beaucoup de multinationales qui ont réussi. Septièmement, le niveau de productivité des travailleurs français serait toujours le plus élevé du monde. Oui, je sais que cela peut étonner au pays des 35 heures et d'une administration pléthorique où il y a tant de gens qui sont absolument débordés. Mais c'est pourtant vrai. Et le phénomène ne date pas d'hier, il est ancien et aujourd'hui, il persiste. Huitièmement, la France est la première destination touristique au monde avec 80 millions de visiteurs par an et cela s'explique par la beauté et la variété des lieux qui s'étendent jusqu'à Tahiti et jusqu'à la Nouvelle-Calédonie. Neuvièmement, la France a le deuxième domaine maritime du monde où se cachent des richesses inexploitées jusqu'à maintenant. On a de quoi faire pour l'avenir. Dixièmement, on peut réussir en France. Les contraintes, les rigidités, les obscurantismes et la nouvelle superstition d'aujourd'hui qu'est l'écologisme n'ont pas étouffé, n'ont pas inhibé l'esprit d'entreprise. Un exemple parmi de multiples autres, mais que je cite parce que je le connais mieux, la CMA-CGM, autrefois entreprise d'État, la Compagnie Générale Maritime, qui faisait des pertes. Eh bien, cette compagnie a été privatisée et elle s'est mise à faire des bénéfices. Et mieux que cela, aujourd'hui, elle est le quatrième ou cinquième groupe pour le transport maritime international. Onzièmement, la forêt française, en particulier la forêt des Landes, qui est privée, est très bien entretenue et renouvelée. Elle s'étend même et elle prospérera à long terme. Alors voilà, j'ai donné 11 raisons d'être content de notre pays. Il y en a sans doute d'autres, et peut-être en connaissez-vous certaines, amis auditeurs. Si tel est le cas, écrivez-moi ou envoyez-moi un courrier électronique à p.simon@villeneau.com, villeneau, pour me dire quelle est cette chose que vous avez découverte. Et si votre bonne nouvelle est vraiment bonne, eh bien je la citerai, je l'ajouterai à ma liste et je la citerai à ma prochaine chronique de la guerre des idées. À bientôt !